Chapitre 34 Amantiomire, querelle d'amant. Tant de franchise et de bonté d'âme ne pouvait point laisser insensible, quelque pervertie qu'elle fût, celle qui en était l'objet. Elle répondit aux caresses et aux douces paroles d'Amy par quelque chose qui ressemblait à de la gratitude et par une émotion qui, si elle ne fut pas durable, était du moins sincère. C'était cet adroit mensonge du fils arraché au bras de sa mère. C'était l'idée de ce déchirant spectacle qui avait rendu à Becky le cœur d'Amelia. Ce fut aussi le premier sujet dont s'entretinrent tout naturellement les deux amis. « Ainsi donc, ils vous ont pris votre enfant chéri, » disait d'une voix émue la trop candide Amelia. « Ah, Rebecca, je comprends vos souffrances. Je sais ce que c'est que d'être privé de son enfant. Aussi je compatis bien à la douleur des mères qui sont affligées d'une aussi pénible séparation. Mais le ciel qui veille sur nous vous rendra aussi le vôtre, comme une providence miséricordieuse m'a fait retrouver le mien. Mon fils, mon enfant, ah, au fait, j'ai eu le cœur déchiré par de bien cruelles angoisses, répondit Becky, tourmentée peut-être par un secret remords. Becky se sentait mal à l'aise en amassant mensonge sur mensonge en présence de tant de confiance et de simplicité. Tel est souvent le triste sort de ceux qui se sont écartés une seule fois du sentier de la vérité. Une première fausseté en entraîne une autre, et l'on roule ainsi de fausseté en fausseté, avec la crainte de voir à la fin tant d'impostures découvertes. « Mes tortures, continua Becky, ont été épouvantables lorsqu'on m'a arraché mon fils. » Il est à regretter qu'à ce moment, un cliquetis de la bouteille ne soit pas venu mêler ses gémissements aux siens. « J'ai failli en mourir. J'ai eu une congestion cérébrale, et mon docteur m'avait condamné. Hélas, si j'en ai réchappé, c'était pour me trouver dans l'indigence et le délaissement. « Quel âge a-t-il ? » demanda Amy. « 11 ans, répondit l'autre. « 11 ans, reprit la mère de Georges, toute surprise. « Mais il est de l'âge de Georgie qui a... »« Ah, c'est pourtant vrai !» s'écria Becky, qui avait parfaitement oublié toutes les particularités de l'âge du petit Rodon. « Si vous saviez comme le chagrin a bouleversé ma pauvre tête, chère Amelia. Ah, je ne suis plus la même. Il y a des moments où je ne me souviens plus de rien. Roddy avait 11 ans lorsqu'on me l'a enlevé. Il était joli comme un ange. Mon Dieu, ayez pitié de moi, je ne le reverrai donc plus. « Était-il blond ou brun ? » demanda cette petite nièce d'Amy. « Vous devez avoir conservé de ses cheveux. Montrez-les-moi, je vous prie. » Becky eut presque un sourire pour tant de simplicité. « Un autre jour, cher ami, quand mes bagages seront arrivés de Leipzig, que j'ai quitté pour venir ici. J'ai aussi son portrait en médaillon. Je l'avais fait faire, hélas, dans des temps plus heureux. « Pauvre Becky, » disait Amy, « combien je dois être reconnaissante envers Dieu. » Et elle se laissa aller à ses réflexions ordinaires sur la beauté, l'esprit, les qualités de son fils, qui n'avait pas d'égal au monde. « Je vous ferai voir mon fils, » continua-t-elle. Dans sa pensée, elle ne pouvait offrir de plus grande consolation à Rebecca si quelque chose ici-bas pouvait la consoler. La conversation se prolongea encore plus d'une heure entre ces deux femmes, et Becky en profita pour faire à son amie un récit circonstancié de son existence depuis qu'elle s'était quittée jusqu'à cette époque. Elle lui raconta comme quoi son mariage avec Rodon avait toujours soulevé dans la famille de son mari les animosités les plus violentes, comme quoi sa belle-sœur, femme artificieuse et passionnée, avait versé contre elle le fiel et le poison dans l'âme de son mari, comme quoi il avait formé de coupables relations qu'il avait amené à délaisser complètement sa femme. Tandis qu'elle avait tout supporté, la pauvreté, le mépris, la froideur de l'homme qu'elle avait le plus aimé, et tout cela pour l'amour de son fils. Enfin, par suite des outrages les plus graves, elle avait été obligée de demander une séparation. Son mari n'avait-il pas eu l'infamie de lui proposer de sacrifier son honneur afin d'obtenir du marquis de Stein l'avancement que lui faisait entrevoir à ce prix ce seigneur aussi puissant que corrompu? Becky débita cette partie dramatique de son histoire avec un accent de pudeur outragée et de vertueuse indignation. À la suite de cette insulte, forcée de fuir le domicile conjugal, elle s'était vue poursuivie par la haine de ce monstre qui avait eu la cruauté de ravir un enfant à sa mère. C'est ainsi que Becky se trouvait pauvre, errante, abandonnée, sans appui, sans ressources. Amy accepta sans la moindre défiance l'histoire qui lui fut racontée avec toutes sortes de détails imaginaires. Elle frémissait d'indignation au récit de la conduite du misérable Rodon, de l'infâme Stein, et ses yeux exprimaient toute sa sympathie pour Rebecca à chaque nouveau trait des persécutions auxquelles elle avait été en butte de la part de cette noble famille et de son mari. Becky n'en disait point de mal, et ses paroles témoignaient plus de douleur que de colère. Elle avait aimé Rodon de toutes les forces de son âme, trop passionnément peut-être, mais enfin, il était le père de son enfant. En entendant Becky raconter la scène de l'enlèvement de son fils, Amy tira son mouchoir de sa poche pour s'essuyer les yeux à la dérobée, et notre petite tragédienne put jouir de l'effet produit sur celle qui l'écoutait par le petit drame qu'elle venait d'inventer. Le major, fatigué d'attendre la fin de cette conversation dans cet étroit couloir où il heurte sans cesse son chapeau contre les poutres du toit, et ne voulant pas cependant l'interrompre, descend au rez-de-chaussée dans la grande salle commune à tous les habitants de l'hôtel. L'atmosphère de cette pièce est un épais nuage de fumée, au milieu duquel, dans la journée, se vide plus d'un verre de pierre. Sur une table grasse et noirâtre sont placés des chandeliers de cuivre, garnis d'un bâton de suif, et rangés au-dessous des clous qui portent la clé des voyageurs. Amy avait passé en rougissant à travers ces brouillards flottants, au milieu desquels on trouvait rassemblés un ramassis de gens les plus divers, des colporteurs avec leurs balles, des étudiants qui mordaient après des tartines de beurre et de gros morceaux de viande, des oisifs qui jouaient aux cartes ou aux dominos sur des tables humides de bière, des jongleurs ambulants qui se rafraîchissaient dans l'intervalle de leurs exercices. Tel était le public de cet endroit qui, les jours de fête, se presse dans toutes les auberges allemandes au milieu de la fumée et du tapage. Le garçon apporta un pot de bière au major qui, tirant un cigare de sa poche, chercha dans la combustion de ce sournois végétal et dans la lecture du journal les moyens de prendre patience jusqu'au moment où il serait rappelé à ses devoirs de cavalier servant. Hans et Fritz descendirent au même instant, le chapeau sur l'oreille, faisant retentir leurs éperons sur les dalles de pierre. Ils avaient des pipes magnifiques ornées de trophées d'armes sculptées. Ils accrochèrent leurs clés au numéro 90, après quoi, demandant du beurre, du jambon et de la bière, ils s'assirent à côté du major et se mirent à causer des duels et des défis à boire de l'université de Schopenhausen, fort renommée par la force des études, et d'où ils arrivaient avec Becky, comme le faisait assez voir leur conversation, afin d'assister aux fêtes du mariage donné à Poupernickel. La petite vierge Terrine paraît être embellie de connaissance, dit Hans, qui savait un peu le français. Quand le grand-papa s'en est allé, il est venu une petite compatriote à elle, et je les ai entendus pavarder et chacasser ensemble. Il faudra prendre des billets pour son concert. As-tu de l'argent, Hans? Son concert. Il est dans les brouillards, son concert. Max m'a dit qu'elle en avait annoncé un de même à Leipzig. Toute la ville avait pris des billets, et elle est partie s'enchanter. Hier, elle racontait dans la voiture que son pianiste était tombé malade à Dresde. D'ailleurs, on ne me fera jamais croire qu'elle soit capable de chanter. Sa voix est aussi enrouée que la tienne. Au toit le plus célèbre gosier de l'Allemagne comme entonnoir à bière. Enrouée? Allons donc. Je l'ai entendu fredonner à sa fenêtre une délicieuse petite ballade anglaise, la rose sur le balcon. Elle n'avait pas l'air d'être enrouée du tout. Les soiffeurs et les chanteurs ne passent point par la même porte, dit Fritz, dont le nez rouge témoignait assez qu'il aimait mieux faire entrer du liquide dans son gosier qu'en tirer des notes musicales. Ergo, tu feras mieux de ne pas prendre de billets. D'ailleurs, elle a fait d'excellentes affaires aux 30 et 40 la nuit dernière. Je l'ai vu qui faisait jouer un petit garçon pour elle. Nous dépenserons notre argent ici au spectacle, où nous pourrons encore la régaler de vin français et de cognac dans les jardins d'Aurelius. Mais quant à lui prendre des billets, je lui en souhaite. N'est-ce pas là ton avis? Garçon, un autre pot de bière. après avoir à plusieurs reprises trempé leurs blondes moustaches dans l'écume de la liqueur dorée, puis ensuite les avoir retroussées d'une façon très crâne, ils allèrent se mêler au flot de la populace qui inondait le champ de foire. Le major, qui les avait vus accrocher leurs clés au numéro 90, et n'avait pas perdu un mot de leur conversation, n'eut pas de peine à comprendre qu'il s'agissait entre eux de béquilles. « Voilà cette infernale petite femme, » pensa-t-il tout bas, « qui se remet à faire des siennes. » Il se prit à rire en se rappelant ses agaceries d'autrefois et l'essai comique de ses tentatives auprès de maître Joss. Il en avait ri bien souvent avec George au moment où ce dernier tomba lui-même dans les filets de cette petite Circé quelques semaines après son mariage et eut avec elle des relations que son camarade soupçonnait mais qu'il voulut toujours ignorer. William était à la fois et trop affecté et trop honteux de la conduite de son ami pour chercher à pénétrer ce triste mystère, bien que George y eût fait allusion comme quiconque est tourmenté par la voix du remords. Le matin de la bataille de Waterloo, alors que les deux jeunes officiers, sous une pluie battante, à la tête de leur compagnie rangée en bataille, suivaient les mouvements des colonnes françaises qui occupaient les hauteurs opposées, George avait dit à Dobbin « Je suis bien aise quand nous ait enfin donné l'ordre du départ, car je me trouve engagé avec cette femme dans la plus sotte intrigue qui existe. Si je meurs, j'espère qu'Amy ne saura jamais un mot de cette affaire, et je voudrais pour tout au monde n'avoir pas fait le premier pas. » William éprouvait une véritable satisfaction à penser que plus d'une fois, il avait adouci les regrets de la veuve de George en lui rappelant qu'Osborne, un peu avant de quitter la vie, après la première journée des quatre bras, lui avait parlé de sa femme et de son père dans des termes pleins de gravité et de tendresse. Dans ses conversations avec le vieil Osborne, William était revenu souvent sur ces détails, et c'est ainsi qu'il avait réussi à réconcilier le vieillard avec la mémoire de son fils au moment où il allait lui-même sortir de cette vie. « Oui, se disait Dobbin, cette infernale créature va encore nous tramer quelque intrigue de sa façon. Je voudrais la voir à mille lieues d'ici. Elle porte toujours le malheur à ses trousses. » Il se livrait ainsi à ses pressentiments et à ses inquiétudes, la tête appuyée sur sa main, la gazette de Poupernicle à la hauteur de son nez, lorsqu'il se sentit frappé sur l'épaule avec une ombrelle. Et levant les yeux, il aperçut Amelia devant lui. Cette femme possédait le secret de réduire Dobbin à ses volontés, comme il arrive pour les plus faibles qui finissent toujours par trouver quelqu'un qui leur sert de victime, et elle lui ordonnait d'aller et de venir, le charger de ses commissions. Enfin, il n'était pas au monde de caniche mieux dressé ni plus obéissant. Je crois en vérité qu'il se serait jeté à l'eau si par un beau jour il lui avait pris fantaisie de lui dire « Tiens, Dobbin, va chercher !» « Eh bien, monsieur, lui dit-elle avec un petit mouvement de tête et un salut railleur, c'est comme cela que vous m'avez attendu pour descendre les escaliers ?» Il m'était impossible de me tenir debout dans ce couloir, lui dit le major d'un air piteux qui avait quelque chose de risible. Il se leva en même temps, ravi de lui offrir son bras et de trouver l'occasion de sortir de cette atmosphère empestée. Il allait même partir sans penser à payer le garçon lorsque celui-ci courut après lui et, l'arrêtant sur le seuil de la porte, lui réclama le prix de la bière qu'il n'avait pas consommée. Amy se mit à rire. Elle l'appela mauvais payeur, l'accusa de fuir devant ses créanciers et l'accabla de mille petites railleries autorisées par les circonstances. Jamais elle n'avait été si animée ni si joyeuse, et elle eut rapidement traversé la place du marché. Il lui fallait son frère à l'instant même. Et le major riait de cette tendresse subite, car, à vrai dire, il y avait longtemps qu'il ne l'avait vu si pressé de courir après son cher Joss. L'ex-fonctionnaire civil était dans le salon du premier étage, où il se promenait dans la chambre, rongeait ses ongles et allait sans cesse à la fenêtre pour examiner s'il ne sortait personne de l'hôtel de l'éléphant, tandis qu'Amy était renfermée avec son ami et que le major battait la générale sur les tables graisseuses de la salle commune. Si donc Mrs. Osborne était pressée de revoir son frère, ce désir était bien partagé. « Eh bien, lui demanda-t-il, du plus loin qu'il l'aperçut. « Hélas, répondit Amy, elle a eu beaucoup à souffrir. »« Par mon âme, je le crois bien, dit Joss, dont les joues frémissaient ni plus ni moins qu'une gelée au rhum. « On pourrait lui donner la chambre de Paim, » reprit Amy, « et Paim ira coucher à l'étage supérieur. » Paim était une gouvernante anglaise d'un certain âge, spécialement attachée au service de Mrs. Sedley, à laquelle M. Kirsch, comme le lui prescrivait son devoir et sa position, avait le soin de faire sa cour, et que George s'amusait à effrayer par des histoires de voleurs et de revenants. Toutes ses journées se passaient à grogner, et tous les matins, en habillant sa maîtresse, elle lui signifiait sa résolution irrévocable de partir le lendemain pour son village natal de Clapham. « Elle prendra la chambre de Paim, » dit Amy. « Et quoi ? Vous songeriez à loger cette femme sous le même toit que vous ?» s'écria le major en bondissant. « Mais sans doute, » dit Amelia de l'air le plus candide du monde. « Ce n'est pas la peine de vous fâcher, major Dobbin, et de vous en prendre à notre mobilier. Il est tout naturel que nous la prenions avec nous. »« Tout naturel, mon cher, » dit Joseph à son tour. « La pauvre créature a passé par tant d'épreuves, » continua Amy. « Son banquier qui fait faillite a disparu. Son mari, ce misérable, ce monstre qui l'abandonne, et lui enlève encore son enfant. » En même temps, Amy avançait le poing avec une expression menaçante et résolue qui enthousiasma le major. Enfin, cette pauvre créature, délaissée, en est réduite maintenant à donner des leçons de chant pour gagner sa subsistance. Et nous aurions la cruauté de ne pas la prendre avec nous ? Prenez de ces leçons tant qu'il vous plaira, reprit le major avec la même animation. Mais ne la recevez pas dans votre appartement. Je vous en supplie, ne le faites point. Peuh, fit Joss en haussant les épaules. Comment, vous, toujours si bon, si généreux, toujours si dévoué en toute occasion, je ne vous comprends pas, William, reprit Amelia, s'animant à son tour. N'est-ce pas le moment de lui tendre la main, alors que le malheur l'accable, et de lui rendre service? Elle serait ma plus ancienne amie, et je ne... Elle n'a pas toujours été votre amie, dit le major Dobbin, irrité de cette résistance. Cette allusion était trop dure. Amy lança au major un regard plein de dignité. « C'est mal, c'est bien mal, lui dit-elle, ce que vous faites là, major Dobbin. » Puis, après ces paroles, elle se retira d'un pas ferme et majestueux et alla cacher dans sa chambre l'offense dont elle se croyait blessée. « Me rappeler un pareil souvenir, dit-elle, lorsqu'elle eut fermé la porte. Il y a de la cruauté de sa part à rouvrir une blessure qui m'a tant fait souffrir. Ah, c'est bien mal à lui. Si je l'avais oublié, devait-il m'en faire souvenir ? Non, non, certainement. » En même temps, elle regardait le portrait de son mari, suspendu comme à l'ordinaire, à son chevet, et au-dessous, celui de son fils. Et quand j'y pense, c'est lui-même qui a tout fait pour me prouver que ma jalousie était injuste et aveugle, et que vous étiez au-dessus de tout reproche, ô vous qui maintenant me regardez du haut du ciel. Suffoquée d'indignation, elle parcourait à grands pas sa chambre et fut enfin s'appuyer sur le bois du lit, au-dessus duquel était suspendue la petite miniature de son mari. Elle resta pendant longtemps à le contempler, sans en détacher ses regards, et dans les yeux du portrait, elle croyait voir une expression de reproche qui lui paraissait redoubler à mesure qu'elle le contemplait davantage. Tous les vieux souvenirs de ce premier amour se pressaient en foule dans son esprit, et sa blessure à peine cicatrisée se rouvrait avec des douleurs plus vives. Le courage manquait à Amy pour supporter les reproches qui semblaient lui venir de la peinture. C'était trop pour ses forces. C'était plus que n'en pouvait supporter cette âme timorée. Pauvre Dobbin, pauvre William, une seule parole a renversé l'ouvrage de bien des années. L'édifice péniblement élevé par tant de constance et de dévouement a été détruit par un seul mot. Un seul mot a dissipé ses espérances et lui enlève ce cœur qui était la conquête et la récompense d'une vie d'abnégation. Bien que William eût pu lire dans les regards d'Amelia qu'une crise allait avoir lieu, il n'en continua pas moins à supplier Sedley de se tenir sur ses gardes à l'égard de Rebecca, et avec une énergie sans égale, il insista pour que Joss ne donnât point asile à Rebecca. Joss devait commencer par prendre quelques renseignements sur son compte, et le major lui dit à cette occasion de quelle manière il avait appris l'existence qu'elle menait au milieu de joueurs et de gens malfamés, et rappela le mal qu'elle avait fait jadis. N'était-ce pas elle qui, de concert avec Crowley, avait précipité le pauvre Georges à sa ruine? De son propre aveu, elle était séparée de son mari, et peut-être pour d'autres motifs que ceux qu'elle mettait en avant. En somme, ce serait une fâcheuse société pour sa sœur, qui n'entendait rien aux affaires du monde. William, en conséquence, avec toute l'éloquence dont il était capable, et avec une énergie inaccoutumée, suppliait Joss de fermer sa porte à Rebecca. Avec moins d'emportement et plus d'habileté, Dobbin eût peut-être réussi auprès de Joss. Mais le fonctionnaire civil se sentait profondément froissé des allures dominatrices que le major prenait à son égard. Il était d'ailleurs confirmé dans cette manière de voir, par son laquais, M. Kirsch, que le major contrariait singulièrement en contrôlant ses dépenses et qui se trouvait ainsi tout naturellement porté à prendre le parti de son maître. À la tirade de Dobbin, Joss opposa une vigoureuse réplique et lui donna à entendre qu'il s'entendait mieux que tout autre au soin de défendre son honneur, qu'il désirait qu'on ne se mêlât point de ses affaires et qu'il était résolu à s'affranchir enfin du joug que le major faisait peser sur lui. Cet entretien fut long et orageux et se termina de la manière la plus simple par l'entrée de Mrs. Becky qui arrivait de l'hôtel de l'éléphant avec son bagage porté par un commissionnaire. Elle exprima à Joss une tendre et respectueuse gratitude et jeta au major Dobbin un coup d'œil poli, quoique défiant, car une voix secrète lui disait qu'elle avait en lui un ennemi et qu'il venait d'élever la voix contre elle. En entendant la voix de Becky dans le salon, Amelia sortit de sa chambre et alla embrasser sa protégée avec la plus vive effusion. Elle ne fit attention au major que pour lui lancer un regard de colère. Jamais, peut-être, on avait surpris une expression à la fois plus injuste et plus dédaigneuse sur les traits de cette petite femme. Mais, pour des motifs à elle connus, elle tenait à laisser voir sa mauvaise humeur contre Dobbin. Le major, plus indigné de cette injustice que de sa disgrâce, se retira après un salut non moins provocateur que l'adieu qu'il obtint pour réponse. Débarrassé de sa présence, Amy se livra sans contrainte à ses accès de tendresse pour Rebecca, et avec un entrain qui surprenait dans sa personne, s'occupa à installer son amie dans la chambre qu'elle lui destinait. Lorsqu'une nature faible et chancelante est sur le point de commettre une injustice, elle est, plus que tout autre, pressée d'en avoir fini. Amy pensait qu'elle venait de faire preuve d'une grande fermeté et témoignait de son respect pour la mémoire du capitaine Osborne. Georgie rentra de la fête pour l'heure du dîner et trouva quatre couverts mis comme d'habitude. Mais à la place qu'occupait d'ordinaire le major Dobbin, se trouvait une dame. « Et Dobbin ?» demanda l'enfant avec la candeur de son âge. « Le major dîne probablement en ville, » lui répondit sa mère, en l'attirant vers elle et en le couvrant de baisers. Puis, après avoir écarté les cheveux qui lui tombaient sur le front, elle le présenta à Mrs. Crowley. « Voici mon fils, Rebecca, » lui dit-elle. Cette seule parole dans la bouche de Mrs. Osborne semblait dire « Trouvez-moi dans tout l'univers une semblable merveille. » Becky regarda l'enfant avec admiration et lui serra tendrement la main. « Cher enfant, » dit-elle tout haut, « comme il ressemble à... » L'émotion coupa sa phrase, mais Amelia la comprit comme si elle l'eût achevé. La vue de Georgie lui avait rappelé son enfant chéri. Fort heureusement, la joie d'avoir retrouvé une amie aida Mrs. Crowley à supporter le poids de cette douleur, car elle mangea d'un excellent appétit. Pendant le repas, Becky eut occasion de parler à plusieurs reprises, et Georges l'écoutait et la regardait avec une attention toute particulière. Amy étant allée donner un coup d'œil à ses arrangements intérieurs, et Joss s'étant mis à ronfler en parcourant les colonnes du Galignani, Georgie, assis à côté de la nouvelle arrivée, continua à l'examiner comme une personne qu'il croyait reconnaître. « Je parie, » dit-il enfin. « Eh bien, que pariez-vous ? » fit Becky en riant. « Que vous êtes la même femme que j'ai vue hier, jouant au rouge ou noir. »«
Silence, petit espiègle !» dit Becky en lui prenant la main et en la couvrant de baisers. « Votre oncle s'y trouvait aussi, et votre maman n'en doit rien savoir. »«
Soyez tranquille, » répondit l'enfant.
« Vous voyez que nous sommes déjà comme une véritable paire d'amis, » dit Becky à Amelia, qui rentrait en ce moment. Mrs. Osborne avait, en vérité,
fort bien choisi la personne à laquelle elle accordait l'hospitalité de son toit. William, transporté d'indignation, bien qu'il fût loin de se douter encore de la catastrophe qui le menaçait, arpentait la ville comme un fou jusqu'au moment où il rencontra le secrétaire de légation, M. Tapeworm, qui l'invita à dîner. Tout en dressant le menu de leur repas, il demanda au diplomate quelques renseignements touchant une certaine Mrs. Rodden Crowley qui avait fait, disait-on, quelques bruits à Londres. Tapeworm, qui était au courant des commérages de la grande cité, et qui de plus avait des liens de parenté avec Lady Gaunt, donna au major tous les détails qu'il désirait sur Becky. Le major ouvrit de grandes oreilles au récit de Tapeworm, qui lui fit les révélations les plus étourdissantes sur le compte de Becky, de Tufto, de Stane, au point que les oreilles simples et candides du major ne tardèrent pas à en rougir. Lorsque Dobbin lui raconta que Rebecca devenait la commensale de Mrs. Osborne et de M. Joss Sedley, Tapeworm poussa un éclat de rire qui acheva de rendre le major tout stupéfait. Mieux valait, selon Tapeworm, envoyer chercher de suite à la prison un de ces messieurs à la tête rasée, portant veste jaune, et enchaîner deux à deux, avec fonction de balayer les rues du Poupernicle, pour en faire ses hôtes et leur confier Georgie, que d'admettre chez soi cette petite intrigante. Ces renseignements causèrent au major un certain trouble mêlé d'inquiétude. Le matin même, il avait été décidé, avant l'entrevue avec Rebecca, qu'Amelia irait le soir même au bal de la cour. Le major, espérant l'y rencontrer pour lui faire part de tout ce qu'il venait d'apprendre, endossa son uniforme et se rendit au palais dans l'espérance d'y rencontrer Mrs. Osborne. Mais malheureusement, elle n'y vint point, et en rentrant chez lui, il s'assura que l'appartement des Sedley était plongé dans l'obscurité. Il était donc trop tard pour voir Mrs. Osborne avant le lendemain matin. Dieu sait si Dobbin ferma l'œil de toute la nuit, agité par les terribles confidences qu'il avait reçues la veille. Le lendemain, de bonne heure, il envoya son domestique porter à Mrs. Osborne un billet dans lequel il lui témoignait le désir d'avoir avec elle un entretien particulier. Il lui fut répondu que Mrs. Osborne, se trouvant fort souffrante, était dans la nécessité de garder la chambre. Elle aussi n'avait point fermé l'œil de la nuit. Elle aussi avait été tourmentée par une pensée qui, depuis longtemps déjà, portait le trouble dans son cœur. 100 fois elle avait failli céder, et toujours le sacrifice lui avait paru au-dessus de ses forces. Tant d'amour, de constance, de dévouement, de respect, de gratitude, ne pouvait triompher d'un sentiment secret inexplicable qui la poussait à la résistance. Aucune considération n'avait d'empire sur Amelia, tous les prétextes lui étaient bons pour s'enfoncer dans cette ligne de conduite où la poussait son aveuglement. Lorsqu'enfin, dans l'après-midi, le major eut obtenu la permission de se présenter chez elle, au lieu de l'accueil cordial et ouvert auquel elle l'avait habitué depuis si longtemps, il ne reçut d'elle qu'un salut froid et cérémonieux. On lui présenta une petite main gantée qu'on retira presque aussitôt de la sienne. Rebecca, qui se trouvait dans la même pièce, s'avança vers Dobbin avec un sourire caressant et lui tendit la main. Dobbin retira la sienne, en proie à une agitation que trahissait sa figure. « Pardonnez-moi, madame, lui dit-il, il est de mon devoir de vous déclarer que si je me trouve ici, ce n'est nullement un sentiment d'amitié pour vous qui m'y amène. »« Que diable, s'il vous plaît, laissons tout cela de côté, » fit Joss, désirant éviter une scène. Je ne sais pas trop ce que le major Dobbin pourrait avoir à dire contre Rebecca, fit Amelia d'une voix nette, quoique légèrement émue, et elle jeta sur lui un regard très résolu. « Je ne veux point de toutes ces discussions-là chez moi, » reprit de nouveau Joseph. « Entendez-vous, Dobbin? Je vous en prie, restons-en là. » Puis, après avoir jeté un regard autour de lui et poussé un gros soupir, il se dirigea tout rouge et tout tremblant vers la porte de sa chambre. « Ma chère amie, » dit Rebecca avec une douceur angélique, « je vous prie, ne vous refusez pas à entendre les accusations que le major Dobbin vient porter contre moi. »
« Quant à moi, je ne veux rien entendre !» s'écria Joss sur un ton de fausset, et s'enveloppant dans sa robe de chambre, il s'élança hors de la pièce.
« Maintenant que vous n'avez plus devant vous que des femmes, il n'y a plus rien qui puisse retenir vos paroles, monsieur, » lui dit Amelia. Amélia, répondit le major d'un ton de dignité blessée, pouvez-vous bien parler ainsi, et surtout à moi qui suis sûr de n'avoir à me reprocher aucun mauvais procédé à l'égard d'une femme? Et en cette circonstance, ce n'est point un plaisir qui m'amène auprès de vous. C'est un devoir que je viens y remplir. Dépêchez-vous alors, major Dobbin, répondit Amélia, qui s'animait de plus en plus. Comme elle prononçait ces paroles avec un accent impérieux dans la voix, la figure de Dobbin prit une expression dure et sévère. « Eh bien, je viens vous dire, vous pouvez rester, Mrs. Crawley, car il n'y a rien que je ne puisse dire devant vous. Je viens vous dire que je ne trouve point convenable qu'une famille que j'aime et j'estime donne asile à une femme séparée de son mari, qui voyage sous un nom d'emprunt et fréquente les maisons de jeu. « J'étais au bal, s'écria Becky. Et que ce n'est point la compagne qu'il faut à Mrs. Osborne et à son fils. J'ajouterai, continua Dobbin en se tournant vers Rebecca, que j'ai trouvé ici des gens qui vous connaissent parfaitement, madame, et qui m'ont donné sur votre conduite des détails que je craindrais de répéter en présence de Mrs. Osborne. Major Dobbin, répliqua Rebecca, vous vous servez d'une manière de calomnier les gens pleines de réserve et de convenance, et vous avez l'adresse de les mettre sous le poids d'une mystérieuse accusation sans avoir le courage de la formuler. Prétendez-vous faire allusion à des infidélités de ma part à l'égard de mon mari? Je mets au défi qui que ce soit, et vous tout le premier, d'en produire aucune preuve. Mon honneur est intact, entendez-vous, et aussi intact, pour le moins, que celui du plus cruel ennemi qui ait jamais cherché à y porter atteinte. Après quoi, vous vous en prendrez à ma pauvreté, à mon malheur, à mon état d'isolement. Voilà ce qu'on peut surtout me reprocher. Voilà les crimes dont chaque jour je subis la douloureuse expiation. Je m'en vais, Amy, je m'en vais, oubliez que vous m'avez retrouvé. Mais ne croyez pas que je sois plus coupable maintenant que lorsque vous m'avez connu autrefois. Pour moi, ces quelques heures de bonheur seront un rêve, et comme un pauvre pèlerin, je reprendrai ma route sans jeter un regard en arrière. Vous rappelez-vous cette romance que nous chantions autrefois? Hélas, ce temps a déjà fui bien loin. Et depuis lors, ma vie a été un long pèlerinage, pendant lequel je me suis vu méprisé partout parce que j'étais pauvre, outragé parce que j'étais seul. Adieu, je me retire puisque mon séjour ici dérange les plans de votre ami. C'est la seule chose, madame, qui vous reste à faire, répliqua le major, et si je possède quelque autorité dans cette maison? De l'autorité, vous n'en exercez aucune, s'écria Amélia, furieuse. Rebecca, vous resterez avec moi. Non, non, ne craignez point que je vous abandonne, parce qu'on vous persécute et qu'on vous insulte, parce qu'il prend au major Dobbin la fantaisie de vous faire une scène. Venez avec moi, ma chère. Les deux femmes se dirigèrent en même temps vers la porte. William s'avança pour l'ouvrir, et comme elle quittait la pièce, le major prit la main d'Amélia et lui dit « Veuillez rester, je vous prie, j'ai à vous parler. » « C'est pour vous parler contre moi lorsque je n'y serai plus pour me défendre, » fit Rebecca, prenant un air de victime. Amélia, pour toute réponse, lui serra la main. « Sur l'honneur, il ne s'agit point de vous, » dit Dobbin. « Restez, je vous prie, Amélia. » Amélia resta, et Dobbin fit un profond salut à Mrs. Crawley, comme elle tirait la porte sur elle. Amélia fixa ses regards sur le major, tout en s'appuyant contre la cheminée. Ses lèvres et sa figure étaient toutes pâles. « J'ai à vous faire des excuses, lui dit le major, pour la manière dont je viens de vous parler. C'est à tort que j'ai employé le mot d'autorité. »« Ah, c'est heureux que vous le reconnaissiez, dit Amélia, dont les dents claquaient les unes contre les autres. « C'est une manière adroite et généreuse de me rappeler les obligations que je vous ai, fit Amélia. « Les droits que je réclame, répondit William, sont ceux que m'a laissés le père de George. » Vous n'avez pas craint d'insulter à sa mémoire hier encore. Vous savez bien ce que je veux dire. Soyez-en sûr, je ne l'oublierai jamais. Non, jamais. » Amélia prononça ces derniers mots avec le petit tremblement convulsif que donnent d'ordinaire la colère et l'émotion. « Y pensez-vous, Amélia ? » fit Dobbin avec un retour de tristesse. « Croyez-vous que ces mots prononcés dans l'emportement de la colère soient assez forts pour ne plus rien laisser de toute une vie de dévouement ? La mémoire de Georges n'a point à s'offenser de la manière dont je me conduis par égard pour elle. Et si je mérite des reproches, je n'aurai jamais à en recevoir de sa veuve et de la mère de son fils. Pensez-y, pensez-y dans le calme de la réflexion, et je suis convaincu qu'en âme et conscience, vous serez obligé de m'absoudre d'une pareille accusation. Et déjà, maintenant, vous n'aurez pas le courage de me condamner. » Amelia laissa tomber sa tête sur sa poitrine. « Ce ne sont point mes paroles d'hier, Amelia, qui vous ont ainsi animé contre moi. Ce n'est là qu'un prétexte. Ou bien j'aurais perdu ma peine à vous aimer pendant 15 ans, à veiller avec tendresse sur votre cœur. Et croyez-vous donc que depuis de si longues années, je n'ai pas appris à lire dans votre âme, dans vos pensées? Je sais ce dont votre cœur est capable. Il peut s'attacher avec fidélité à un souvenir, chérir une image. » Mais il ne peut ressentir un attachement assez fort pour répondre à celui que j'éprouve pour vous, enfin tel que j'aurais voulu le rencontrer dans une âme mieux trempée que la vôtre. Non, vous n'êtes pas digne de l'amour que je vous avais voué. Je l'ai reconnu depuis longtemps, le but que je proposais à mon existence n'était pas digne des efforts que j'ai tentés pour l'atteindre. Insensé, je me suis bercé de vaines chimères, et dans mon fol abandon, je me sentais toujours prêt à échanger la franchise et l'ardeur de mon âme contre la faible étincelle d'amour assoupie dans la vôtre. Mais maintenant, je renonce à un pareil marché. Je me retire, et sans qu'il y ait reproche ou ressentiment de ma part. Oh, nullement! Avec une bonne nature, vous avez fait tout ce qu'on pouvait attendre de vous. Mais la hauteur de l'attachement que je vous portais est trop élevée pour vous, et pour y atteindre, pour avoir part à cette généreuse tendresse, il fallait un cœur plus grand que le vôtre. Adieu, Amelia. Après avoir suivi toutes les vicissitudes du combat qui se livrait en vous, je reconnais qu'il est temps d'y mettre fin. Nous sommes tous deux à bout de nos forces. » Amelia, consternée et silencieuse, écoutait William qui secouait tout à coup la chaîne qui jusqu'alors les tenait unis et regagnait à la fois son indépendance et sa supériorité. Depuis longtemps, cette petite créature, le sentant prosterné à ses pieds, avait cru qu'il ne saurait jamais se relever. Elle ne voulait point l'épouser, mais le tenir à sa discrétion. Elle voulait tout de lui, sans lui faire aucune concession. C'était un de ces marchés tels qu'on en voit souvent en amour. Cette véhémente apostrophe de William l'avait complètement renversée et mise en déroute. Étonnée désormais de la position offensive qu'elle avait prise d'abord, elle ne songeait plus qu'à battre en retraite. « Si je vous comprends bien, vous allez partir, William ?» lui demanda-t-elle. William sourit tristement. « Une fois déjà je vous ai quitté, lui dit-il, et je suis revenu après 12 années. Alors nous étions jeunes tous les deux, mais la vie s'use enfin à jouer ainsi avec l'espérance. » Pendant cet entretien, la porte de la chambre de Mrs. Osborne s'était doucement entrebâillée, et Becky, tournant le bouton au moment même où Dobbin l'avait lâché, n'avait point perdu un mot de toute cette conversation. « C'est un noble cœur, pensa-t-elle en elle-même, et c'est bien mal à cette femme de se jouer ainsi de lui. » Elle admirait Dobbin sans lui conserver aucune rancune pour s'être déclarée aussi ouvertement contre elle. C'était là une partie jouée avec loyauté et armes égales de part et d'autre. « Ah, pensait-elle, si j'avais trouvé un homme comme celui-là, un homme qui aurait eu comme lui du cœur et de la tête, je n'aurais point regardé à ses grands pieds. » Elle alla alors s'enfermer dans sa chambre, se recueillit pendant un instant, et écrivit un billet à Dobbin, où elle l'engageait à attendre quelques jours avant de partir, lui promettant de tout faire pour lui auprès d'Amelia. Sa séparation consommée, le pauvre Dobbin se dirigea vers la porte et sortit. La petite aventurière de qui venait cette brouillerie était enfin maîtresse du champ de bataille. C'était à elle, maintenant, de savoir tirer de la victoire le meilleur parti possible. Maître Georges, rentrant comme d'habitude à l'heure du dîner, avait remarqué l'absence de son vieux Dobbin. Le silence le plus profond régna pendant tout ce repas. Joss n'avait rien perdu de son appétit, mais Amy ne mangeait pas. Après le dîner, Georgie s'étendit sur un canapé tout proche de la fenêtre, ayant vue sur la place du marché. Georgie regardait ce qui se passait dehors, tandis que sa mère s'occupait à ranger d'un autre côté. Tout à coup, il s'aperçut qu'il y avait grand mouvement dans l'hôtel occupé par le major. « Hélas, dit-il, Voilà le voiturin de Dobbin que l'on sort de la remise. Ce voiturin avait été acheté par Dobbin, moyennant 6 livres sterling, et lui avait valu de la part de ses amis un feu roulant de plaisanteries. Amy tressaillit sans rien dire. « Hé, hé !» continua George. « Voici François qui sort avec le porte-manteau, et Kunz, le postillon borgne, qui traverse le marché avec ses 3 rosses. Le voilà avec ses grandes bottes et sa veste jaune. Il y a donc quelqu'un qui s'en va ? Mais ils mettent les chevaux à la voiture de Dobbin. Le major va donc partir ? Oui, dit Amy, il part en voyage. En voyage ? Et quand reviendra-t-il ? Jamais, répondit Amy. Non, il ne partira pas, s'écria le petit Georgie en s'agitant sur le canapé. Allez-vous vous tenir tranquille, monsieur ? Lui cria Joss. Je vous défends de sortir, Georgie, lui dit sa mère avec une expression de tristesse. L'enfant s'arrêta, frappa du pied, puis sautant et s'agitant sur le canapé, il donna tous les signes de l'impatience et de la curiosité. Les chevaux furent attelés, les bagages chargés sur la voiture. François apporta l'épée, la canne et le parapluie de son maître, tout cela lié ensemble. Il les plaça dans le filet, mit à côté de lui sur le siège le nécessaire de voyage et l'étui du chapeau à cornes. François sortit encore le vieux manteau de drap bleu doublé de serge rouge, qui, depuis 15 ans, tenait fidèle compagnie à son propriétaire. Il était tout neuf à la campagne de Waterloo et avait couvert George et William la nuit qui avait suivi l'affaire des 4 bras. Le propriétaire de l'hôtel vint à son tour donner un coup d'œil à la voiture. François apporta ensuite le reste des bagages. Dobbin parut enfin. Le maître de l'hôtel pleurait presque de le voir partir. Le major était adoré de tous ceux avec qui il était en rapport. Ce ne fut qu'à grand-peine qu'il parvint à se soustraire à l'attendrissement de ses adieux. « Moi, je veux aller lui dire adieu !» s'écria George en frappant du pied. « Vous lui donnerez ceci, » dit Becky, qui semblait fort émue. Et elle remit à l'enfant un petit morceau de papier. Descendre l'escalier, traverser la rue, fut pour George l'affaire d'une seconde. Déjà le postillon jaune commençait à faire claquer son fouet. William était dans la voiture. George monta sur le marchepied et, entourant le cou du major de ses 2 bras, comme on pouvait le voir de la fenêtre, lui adressa des questions sans fin. Puis il lui donna le petit billet que Becky l'avait chargé de lui remettre. William le saisit avec empressement et il tremblait pour l'ouvrir. Mais tout à coup ses traits s'altérèrent. Il déchira ce papier et en jeta les morceaux par la portière. Puis il embrassa George sur le front et l'enfant redescendit avec l'aide de François en se frottant les yeux. Georgie resta encore quelques moments à regarder la voiture. Le postillon agita de nouveau son fouet. François s'élança sur le siège. Les 3 chevaux s'ébranlèrent. En même temps, la tête de Dobbin s'inclina sur sa poitrine. Il ne leva point les yeux quand la voiture passa sous les fenêtres d'Amelia, et Georgie resta seul dans la rue, éclatant en larmes et en sanglots au milieu des passants attroupés. La femme de chambre d'Amy entendit l'enfant pleurer pendant toute la nuit. Elle lui porta des bonbons pour essayer de le consoler et mêla ses regrets aux siens, car tous ceux qui connaissaient cet honnête et brave major ne pouvaient s'empêcher de se laisser prendre d'affection pour lui. Quant à Amy, n'avait-elle pas rempli son devoir ? N'avait-elle pas, pour se consoler, la miniature de Georges ?